Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour, nous sommes le 28 décembre et c'est le dernier Popopop de l'année. Si j'étais sur TF1, je serais devant un fond vert avec des faux flocons qui tombent et vous auriez un petit bandeau défilant pour vous rappeler que nous sommes à J-3 du grand réveillon de TF1 présenté par Arthur. Un réveillon enregistré fin octobre à la Plaine Saint-Denis, mais comme nous ne sommes pas sur TF1 mais sur France Inter, une radio du service public, eh bien moi le service que je vais vous rendre publiquement aujourd'hui, c'est de vous expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire le soir du 31. Voici donc les 5 pop prescriptions de Popopop pour vous aider à passer 2019. Dignement. Petit 1, vous ne direz pas « Allez, à l'année prochaine, en allant prendre votre dernière baguette chez le boulanger. » Petit 2, je rappelle que comme en 2017, 16, 15, 14, 13, 12, et même depuis 1806, hein, la santé, mais pas des pieds, n'est toujours pas tolérée. Petit 3, rappelez à la personne qui vous dira « Non mais l'an dernier, Foucault, il avait 10 secondes de retard, vas-y mets plutôt la 2 avec Patrick Sébastien. » Aujourd'hui, il suffit de regarder son téléphone pour avoir l'heure exacte. Et petit 4, si vous faites un décompte, restez 10... Oh, et puis ça suffit, ces classements de merde, c'est pour les magazines qui n'ont vraiment rien d'autre à raconter. Allez, Charline, avec moi. 5,
4, 3, 2, 1... Bonne année !
Pas le string, Charmine, calmez-vous, allez, nous sommes sur France Inter. Voilà, et au menu de ce pop-up-up, nous vous proposons, mais c'est le bordel, de réécouter deux auteurs qui ont marqué 2018. D'un côté, un homme fasciné par les gros seins, et de l'autre, celui qui a obtenu le Goncourt. Deux hommes, deux styles, Bastien Vivès et Nicolas Mathieu, sont dans Popopop. Alors avant de nous intéresser aux gros seins, intéressons-nous à celui qui, lorsque nous l'avons reçu, ne savait pas encore qu'il serait goncourisé. Bonjour Nicolas Mathieu.
Bonjour.
J'espère que je vais quand même pas vous porter la choumoune, hein. Mais avant ça, Nicolas Mathieu, ici il existe une question. Une question qui a un goût encore plus acide qu'une chronique défavorable de Christine Angot, et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture ?
Je crois que la pop culture, ça commence avec un truc tout simple, ce qui est l'invention de l'argent de poche, en fait. Mm-hmm. Tout ça, finalement, c'est... La pop culture, c'est né avec les ados américains après-guerre. Je crois que si on n'avait pas filé d'argent de poche pour aller voir Elvis, pour aller voir des films de la MGM, il n'y aurait jamais eu de pop culture. Et moi, ce que j'ai fait avec mes premiers sous qu'on m'a donné pour comme argent de poche, je suis allé acheter La Bamba et un album, je me souviens, de AA, Take On Me. Mmh. Et puis après, je suis allé voir tous les Rambo les uns après les autres. Voilà, c'était comme ça que ça a marché pour moi, la pop culture, avec ce qu'il y avait dans mon porte-monnaie.
Moralité, vive l'argent de poche. On parle de pop de culture et de pop culture dans la suite de Pop Pop Pop, juste après ce morceau Beat 54 du groupe Jungle. One love, you're heading on your own love. Time not to be there. She says she won't care. Now you have something. Before you had nothing. I don't want to care. But your love's real. And it's an odd thing. I cannot be your whole world. Sit on the fake grass, and I won't believe that. And I never had enough for you, but you said someone will come and replace me. How can you replace me? While it's true.
Believe that, and I never had enough for you, but you said someone.
C'était Beat 54 du groupe Jungle, et je répète parce que vous n'avez pas l'air très attentif aujourd'hui, Beat 54 du groupe Jungle.
France Inter, Pop-up, Antoine Decaune.
Et nous sommes aujourd'hui avec un auteur qui a un petit air de Clark Kent. Mais qui est-il et porte-t-il un costume moulburne sous les vêtements que je vois là, non ? Réponse avec son pop-portrait.
Oh bah non.
Alors votre portrait, Nicolas.
Ça commence très très bien.
C'est un portrait, mais... Et c'est signé Charline.
C'est toujours pas mon nom, hein, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui a sans doute un certain goût pour le contemplatif. Un littéraire qui a fait son mémoire sur Terrence Malick l'est forcément un minimum. Mais un contemplatif déterminé, avec une vraie acuité, pas comme moi, une immense capacité à regarder le plafond bouche bée. Il aurait pu se contenter d'observer benoîtement ce qui l'entoure, mais voilà, l'homme ici présent est animé par un souffle du genre romanesque. Alors il a, selon ses propres termes, fait ses humanités, notez déjà la plume, moi j'aurais dit ronfler sur les bancs de la Sorbonne, exercé bon nombre de boulots, petits et gros, avant et même pendant qu'il s'attelait à son tout premier roman, 4 ans de labeur, notez aussi le courage, moi j'aurais dit 4 ans à imprimer la forme de mes fesses sur le canapé devant Netflix, pour un coup d'essai, coup de maître intitulé « Aux animaux la guerre », et ils nous prouvent aujourd'hui, avec leurs enfants après eux, splendeur en 426 pages, que le souffle est toujours profond et régulier et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter.
Donc si je comprends bien la différence entre vous, Nicolas, c'est que vous n'avez pas passé 4 ans de votre vie à imprimer de la forme de vos fesses le canapé de votre
salon. Non, j'étais dans un fauteuil de bureau et j'ai bossé.
Voilà.
Et moi, j'ai pas fait de mémoire.
Hein, prenez-en de la graine, ouais, Charline. Merci.
Je désespère pas, hein, ça viendra
bien,
peut-être.
Bien, ok. Alors, attention, spoiler.
Alerte, spoiler.
Dans la séquence qui suit, on va parler de Bruce Springsteen.
C'est ça ?
Oui, vous êtes prêts ? Alors, on y va. Popliste. Nicolas Mathieu, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, publié en 1932. Charline, les voyages au bout de la nuit, ça vous connaît, parlez-nous de celui-là.
Rien à voir. Bardamu, médecin de banlieue, tente d'apaiser les malheurs humains et se faisant raconte ses expériences de la Première Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres, du colonialisme et de la condition humaine en définitive.
Nicolas, avant de nous dire pourquoi vous aimez à ce point-là ce livre, est-ce que vous voulez bien nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
La tante à Bébert avait fini par se taire et nous laisser tranquilles. Elle avait tout dit ce qu'elle savait. Alors, elle allait pleurnicher, déconcertée, dans les coins de sa loge, l'un après l'autre. Du chagrin, enfin, lui était venu tout au bout des mots. Elle n'avait pas l'air de savoir qu'en faire du chagrin. Elle essayait de se le moucher, mais il lui revenait son chagrin, dans la gorge et des larmes avec, et elle recommençait. Elle s'en mettait partout, et comme ça, elle arrivait à être encore un peu plus sale que d'habitude, et elle s'en étonnait. Mon Dieu, qu'elle faisait. Et puis c'était tout. Elle était arrivée au bout d'elle-même, à force de pleurer. Et les bras lui retombaient, et elle en restait bien ahurie devant moi.
extrait du Voyage au bout de la nuit, lu par notre invité Nicolas Mathieu. Alors maintenant,
un livre qui ne plombe pas du tout l'ambiance, c'est ça qui est bien.
Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes tombé sur le voyage?
Je l'ai lu trop tôt déjà, je pense. Je l'ai lu en première à 17 ans.
Oui, c'est trop tôt.
Et c'est vraiment le sentiment que ça m'a donné à l'époque, et quand je le regarde rétrospectivement, c'est de regarder le soleil en face. Ça montre le réel avec une noirceur telle que ça aveugle, que ça rend... Ça teinte la manière dont on va voir la vie pour tout le reste, quoi. Et puis, il y a autre chose qui se passe dans ce roman. C'est un roman où on a le sentiment sans cesse, c'est un sentiment bizarre de tension électrique dans les phrases. On se dit, ces deux mots-là, avant lui, n'avaient jamais été mis côte à côte. Et ça produit des espèces d'électrochocs. Ouais, exactement. Et c'est... Quand on lit beaucoup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lieux communs, de clichés qui sont sans cesse réutilisés. Et là, vous prenez du 120 volts toutes les pages, quoi. Donc, cette force de percussion-là, ces déflagrations sans arrêt, après, quand on écrit, c'est un peu ce qu'on va chercher. Donc, pendant longtemps, on imite pâlement, puis on trouve après sa propre électricité.
Très bien. Bah, écoutez, je crois que ce commentaire sur Céline me convient parfaitement. Vous aussi, Charline?
Oui, oui, bien sûr.
Il faut que je lui demande, parce que sinon, après, je me fais engueuler. Pour le film culte, vous avez choisi Rocky. C'est un film réalisé en 1976 par John J. Avildsen avec Sylvester Stallone. Charline, vous étiez au premier rang. Je vous ai vu à Wembley le 22 septembre pour le combat Joshua Povetkin. Puisque vous adorez la boxe, parlez-nous un peu de Rocky.
De son vrai nom, Robert Balboa. Mais c'est vrai que c'est moins vendeur sur un ring. L'histoire d'un modeste boxeur italo-américain qui, pour survivre entre deux combats, travaille pour un usurier et aussi il est amoureux, mais alors le nom de sa dulcinée m'échappe complètement.
Et bien maintenant, écoutons la mythique BO. Oh, Ghislain, c'est notre réalisateur. C'est quoi cette version de merde, là?
Bah, j'ai trouvé ça sur la chaîne YouTube, Chiki Melodica, et puis je me disais que...
Bon, écoute, Ghislain, tu ne te dis rien, ok? Tu arrêtes de penser même, c'est plus simple. Ok, merci, bien. Pardon, excusez-nous Nicolas Mathieu, pourquoi Rocky?
J'ai horreur du second degré sur Rocky déjà. Je me fais régulièrement humilier sur mes goûts en cinéma. Bah, déjà parce que le cinéma c'est l'enfance et que Rocky c'est les films que j'ai vus dans les années 80.
Et puis 17 ans.
Et puis aussi parce que l'histoire que raconte Rocky, c'est celle d'un héros prolo et d'un tocard. Rocky, finalement, dans les bons Rocky, il gagne pas, juste il ne tombe pas. Et c'est un rapport du rock, donc de la Terre, à son adversaire dans les premiers, il s'appelle Apollo, c'est le soleil. Et donc c'est ce rapport-là des gens tenaces à ceux qui sont virtuoses, c'est aussi un truc auquel j'ai pu m'identifier, et puis des mythologies personnelles qui m'ont tenu quand moi j'écrivais. Je me disais, tu seras jamais un virtuose, t'as pas fait Normal Sup, mais...
Vous croyez qu'il suffit de faire Normal Sup pour être un virtuose?
Non, mais enfin, il y a une image de l'excellence scolaire dans la littérature française qui est très forte, contrairement aux États-Unis où tout le monde est pompiste et GI. Ici, effectivement, on brille. Et le mythe de Johnny, ouais, on pourrait dire ça aussi, c'est intéressant là-dessus.
Ça marche aussi avec Johnny. Ouais.
De Rocky, ouais, c'est un truc auquel on peut s'accrocher.
Bien, continuons cette pop-list avec votre chanson culte. Et là, vous choisissez The River de Bruce Springsteen, extrait de son cinquième album The River, sorti en 80, Charline, c'est ça?
Je ne me risquerai pas à amener une quelconque info ou anecdote sur cet artiste dont je sais finalement assez peu de choses, sauf qu'il me semble, Antoine, que vous l'aimez mollement.
Pas mollement, oui. Bon, alors Nicolas, évidemment, c'est un choix qui me va droit au cœur et que je valide à 2000%. D'ailleurs, laissez-moi exprimer ma joie. Bien, cela dit,
c'est l'heure de votre piqûre.
En lisant votre roman, je vois exactement ce qu'il y a de springsteenien. Et nous en reparlerons tout à l'heure dans votre roman. En attendant, parlez-nous, vous, de cette rivière.
Springsteen, il réussit un truc qui était un peu une des ambitions, un des horizons que j'avais en commençant ce bouquin, c'est de parler des gens qui ne sont rien, en le faisant avec beaucoup de décence, de précision, de dignité, quoi. Et il en fait malgré ça, des héros. Il y a quand même un côté bigger than life. Mmh. Et puis, il y a un truc, une expérience plus personnelle. Quand je faisais des recherches pour le bouquin, je suis allé visiter les hauts fourneaux dans la vallée de la Fench, les hauts fourneaux éteints. Donc, ils ont des immenses architectures de métal qui rouillent. Puis, j'avais mon casque sur les oreilles et j'écoutais un concert de Springsteen. Et dans un de ses concerts, ça commence par une longue introduction. Il parle de son père. Mmh. Et il dit qu'il avait des conflits quand il était ado avec son père parce qu'il avait les cheveux longs et son père n'arrêtait pas de le faire chier. Vivement que tu ailles à l'armée parce qu'on te les coupera. Et puis, la guerre du Vietnam est arrivée. Et Springsteen s'est engagé. Il a fait ses 3 jours. Enfin, c'est comme ça. Ouais. C'est physical, c'est comme on appelle ça aux États-Unis. Et quand il est revenu, il avait échoué. Et son père lui a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, ben, j'ai foiré, ça n'a pas marché. Et là, son père, il était dans sa cuisine, il lui a dit, that's good. C'est-à-dire que toute sa vie, il lui avait souhaité d'aller enfin à l'armée pour devenir un homme. Et au fond, il préférait que son fils
survive.
Voilà, survive. Et ce silence sur l'amour, et puis juste ces quelques mots, that's good, qui dénonce tout d'un coup, c'était aussi un des axes du livre. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là, quoi. Comment ça se passe chez les gens qui n'ont pas des mots.
The River, ça explique un peu ce roman fleuve.
Ouais. Et puis c'est aussi un roman de l'éternel retour. Dans The River, on a la vie d'un jeune type comme ça. They bring you up to do what you did it down. Y a un cycle qui revient sans cesse. Et dans le bouquin, les gamins reviennent sans cesse au lac, comme le gamin revient sans cesse à la rivière dans la chanson. Quoi.
Vous avez lu l'autobiographie de Springsteen?
Alors, pas complètement. Pas complètement, j'ai lu. J'en ai lu une partie. Enfin,
dans une pile. Vous lisez l'anglais?
Non.
Non, c'est dommage.
Oui.
Bien, Nicolas Mathieu, terminons cette pop liste avec ma série culte, pardon, votre série culte, qui est aussi la mienne. Bref, cette série, c'est The Sopranos, série américaine de David Chase, diffusée de 99 à 2007 sur HBO. Charline, une de ces anecdotes dont vous avez le secret, peut-être?
Évidemment, Antoine. À la base, c'est le comédien Ray Liotta qui devait jouer le rôle de Tony Soprano, mais il a fini par trouver que c'était pas une bonne idée de se commettre à la télé, ce qu'on appelle le flair.
You know why we're here. So if anyone doubts your reservations, now is the time to say so. No one will think any less of you. Because once you enter this family, there's no getting out. This family comes before everything else. Everything. Before your wife, and your children, and your mother, and your father. It's a thing of honor. You stay within the family.
Nicolas Mathieu, à votre avis, pourquoi s'agit-il de ma série culte? Comme ça, en répondant, nous allons comprendre pourquoi c'est aussi la vôtre.
Parce que c'est la meilleure qui ait jamais été réalisée.
Voilà.
Ça me semble évident.
Bah voilà, Charline.
Ça se discute.
Non, ça se discute pas.
En général, il y a quelqu'un qui arrive là qui nous parle de The Wire
oui,
et qu'on
ouais,
évacue rapidement.
Non, moi j'avais parlé de Lost.
Lost?
Ah ouais, Lost.
Comparé à Soprano?
Ouais.
Non, mais vraiment. Je suis désolé, Nicolas. Bien, je résume. Non,
vous voulez pas raconter votre anecdote?
Non, pas
allez,
mon anecdote. Non,
Gandolfini.
Non, je veux bien vous entendre. En revanche, Nicolas, nous dire 2 mots sur les Sopranos. Qu'est-ce qui vous a
déjà
tellement accroché?
Rien que d'entendre sa voix nasale de gros sac italo-américain, ça me fait un plaisir fou. Ça m'aime même beaucoup maintenant qu'il est plus là. Cette série, elle fait 81 épisodes, 50 minutes. Je l'ai vu 2 fois. Ça a occupé une place immense dans ma vie, en fait. J'ai passé plus de temps avec eux qu'avec certains de mes amis, finalement. Et au-delà de tout ce qu'on pourrait dire sur le... Enfin, il y a 2 choses qui sont réussies là-dedans. En fait, je trouve que David Chase, il réussit mieux qu'Antonioni. C'est-à-dire, il nous montre vraiment du temps qui passe.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment, on s'attache tellement au personnage qu'il peut faire des épisodes où il ne se passe strictement rien, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on montre quand il ne se passe rien? Ben, c'est le passage du temps sur les acteurs, quoi. C'est pas une série sur la mafia. C'est une série sur la famille et sur le passage du temps. Et quand on regarde en cours de 7 saisons, ce qu'il arrive à Junior Soprano, qui est le boss au début, puis qui à la fin finit dans une maison de retraite, dans un fauteuil à roulettes, à regarder dans le vide. C'est la phrase de Cocteau, le cinéma c'est la mort au travail. Là on a vraiment vu ce que le temps fait au corps. Et le bouquin, ça se passe sur 10 ans, il y a 4 étés, c'est ça aussi que je voulais montrer. Ce que la morsure du temps sur les vies des gens.
Bah écoutez, vous savez quoi, je vais me refaire toute la série, moi.
Ouais. Excellent. Vous avez un peu de temps pour vous.
Et puis, autre chose, c'est une série remarquablement égale. Il n'y a pas de mauvaise saison.
Absolument. Bien, je résume. Hein. Céline, Rocky, Springsteen et Soprano, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
tante Abébert avait fini par se taire et nous laisser tranquilles. Elle avait tout dit ce qu'elle savait.
You stay within the family.
Ça vous inspire quoi, ce broyeur de documents sonores?
Quel Nicolas sabotage Mathieu. En règle. Vous avez pris toutes mes idoles et vous en avez...
On les a broyées, c'est ça notre mixeur de pop culture. Bon, Nicolas Mathieu, on va parler de votre livre « Leurs enfants après eux », juste après un petit morceau de musique « Smells like Teen Spirit ». C'est un titre très présent dans ce livre, justement, Nirvana. Eh oui, bien sûr, c'est Nirvana dans Pop 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 sur France Inter avec le morceau Smells Like Teen Spirit. C'était en 91 sur l'album Nevermind. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Mathieu, venu nous présenter Leurs enfants après eux, publié chez Actes Sud. C'est votre deuxième roman, 4 ans après Aux animaux la guerre. Pour quelqu'un que la littérature complexait, on peut considérer que vous êtes sur la bonne voie. Celle de la guérison, peut-être.
Je commence à être un petit peu rassuré.
Ça va mieux.
Ouais, c'est vrai que moi je viens d'un monde où la culture a un truc super intimidant en fait. Mmh. On n'y a pas, on ne se sent pas forcément légitime par rapport à tout ça.
Le fameux normal sup.
C'est ça. Et je pense que mon passage par le roman noir, grâce à notamment Jean-Patrick Manchette, parce que j'avais lu ses chroniques sur. Il expliquait comment on pouvait faire de la littérature en contrebande grâce au roman noir. Ça m'a aidé à surmonter ça. Et puis, je n'en suis pas vraiment sorti parce que je pense que celui-là aussi est un roman noir. Mmh. Sauf que le souci de restituer la vie des gens et cette vallée de réalisme l'a emporté sur l'usage des codes et que du coup, on est passé dans autre chose. Quoi.
Alors, il y a cette reconnaissance, évidemment, avec les prix qui vous ont mis sur leur liste, notamment le Flore et le Goncourt, l'excellent accueil critique, mais aussi et surtout le bouche à oreille enthousiaste de tous ceux qui conseillent le livre aussitôt après l'avoir lu. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi quelque chose de particulier avec ce livre, d'avoir atteint une cible? Je ne parle pas de publicité, là.
En fait, c'est... On se dit, quand ça coalise autant de personnes différentes, enfin depuis cet été, j'ai des messages qui me remontent des librairies, puis après des lecteurs, on se dit qu'on a mis des mots sur des choses pour des gens qui en avaient besoin, en fait. Donc, c'était pas ça ma cible initiale, mais je me dis que c'est comme moi quand je lis un bouquin, ou surtout quand j'étais ado. Et vous savez, c'est ce sentiment où on lit un truc et on dit « Ah mais ouais, c'est tellement ça, quoi !» Et on éprouve ce soulagement énorme d'avoir mis enfin des mots sur les choses ou quelqu'un les fait pour nous. Je me dis, pour certaines personnes, c'est ce que ça a dû produire. Et ça les soulage, ouais. Il y a un truc comme ça.
Leurs enfants après eux, c'est une fresque qui se déroule dans l'est de la France, à Ayange, là où les hauts fourneaux ne brûlent plus. On y suit Anthony, son cousin, Assine, le mauvais garçon, des filles évidemment. Le livre démarre en 92 avec Smells Like Teen Spirit de Nirvana et se termine avec la finale de la Coupe du Monde en 98. Pourquoi ces deux repères précis? Qu'est-ce que cet instant a de particulier à vos yeux?
Alors c'est marrant parce que je voulais aussi faire le portrait d'une époque, les années 90, qui par convention commence avec la chute du mur et se finit avec la chute des tours, quoi. Mais quand on la vit, cette époque, c'est pas ça qui nous marque, les vrais marqueurs. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu Smells Like Teen Spirit à la télé, ça m'a... Je suis resté scotché, quoi.
Et c'est pas pour, c'était pas Nulle part ailleurs, par exemple.
Et non, c'était le clip sur M6. Ah. C'était pas le groupe lui-même. Et c'est cette rage-là et cette mélancolie-là, elle nous a accompagnés tout le long des années 90. C'était notre état d'esprit. Et puis la Coupe du Monde, 98... C'est ça aussi qui est, c'est ça le bout, c'est ça qui est dans la pop culture du moment, qui est dans la mémoire collective.
Ouais. Parmi les influences que vous citez pour ce roman, il y a ce film de Jeff Nichols.
Someone's here.
What?
Someone's living here.
Shit. You know that guy?
We know some of the same people. We grew up in some of the same places. I reckon we can make a deal for something.
A deal for what?
You never said your name.
Mud. You can call me Mud.
Mud, sorti en 2012, l'histoire de deux mômes qui, lors d'une escapade clandestine, tiens donc, sur le Mississippi, rencontrent le mystérieux Mud, campé par Matthew McConaughey. Qu'est-ce qui, dans ce film, vous a interpellé?
En fait, on cherche des déclencheurs, des amorces. Et l'une des premières images de ce film, c'est ces deux gamins qui sont dans une embarcation sur le Mississippi, qui font ça à toute allure alors que le soleil se lève. Et moi, je cherchais à faire un bouquin sur l'adolescence. Je me suis dit, c'est ça, c'est ces sensations-là qu'il faut, dans un monde qui finit, un monde croupissant comme celui du Mississippi, la chaleur, la moiteur, raconter ces vies à toute allure. Et puis, dans celui-là, comme dans le précédent, Shotgun Stories, il fait un truc, Mike Nichols, c'est qu'il fait du Shakespeare chez les rednecks. Et moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Faire des histoires de seigneurs dans un monde de petites gens.
C'est aussi un roman politique, en ce sens qu'il éclaire, sans jamais chercher à être démonstratif, le fossé entre une partie du pays réel, celui délaissé par l'économie, et puis la fameuse élite. Ce dont vous parlez dans votre livre, dont vous faites vos héros, est-ce qu'ils vont avoir accès à votre texte?
Ah, ça, c'est une putain de bonne question. Parce que ça, c'est le, 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 Le grand problème, c'est que quand on écrit pour, c'est-à-dire à la place de...
Non, parce que c'est
oui, j'ai bien compris.
Une chanson de Springsteen, elle va toucher tout le monde.
Bah, voilà,
tout le monde,
moi c'est pour
tout
ça
monde peut y avoir accès.
Au départ que j'avais employé les moyens du polar en me disant...
Vous parliez de complexe vous, vis-à-vis de la littérature, c'est pour quelqu'un qui ne lit pas, c'est impressionnant.
Ouais, bien
c'est
sûr.
Un gros livre, c'est...
Oui, oui, j'avais bien compris. Le truc, c'est que ouais, quand on... Les gens pour lesquels on écrit, c'est-à-dire pour leur rendre hommage, pas hommage, mais pour parler à leur place quelque part, finalement, ce n'est pas ceux à destination desquels on écrit. Il y a toujours ce problème-là. Et non, à la fin des fins, je ne pense pas qu'ils le liront. Ce n'est pas finalement à eux que ça s'adresse, mais c'est de eux dont ça parle et c'est à eux que s'adresse une statue quand même.
Mais du coup, pensez à une comédie musicale avec Vianney, peut-être ça peut aider. Le monde que vous décrivez dans ce roman, vous n'en faites plus ou pas partie. Vous vous envisagez comme un orphelin volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire que... Mais c'est l'histoire de tous les gamins qui sont dans ce bouquin. Quand on est ado, on a envie de s'arracher au monde auquel on appartient. On trouve que nos parents sont des cons. On trouve que la ville où on a grandi est trop petite. On trouve que son milieu est trop étriqué. On a envie d'ailleurs... Et puis, pour certaines personnes, ça marche. Donc, effectivement, on va quitter... j'ai plus exactement les mêmes références, ni le même univers mental, ni les mêmes usages que le monde d'où je viens. Donc, je n'en suis plus, quoi, quelque part.
Est-ce que vous avez l'impression de solder votre dette, d'une certaine manière, vis-à-vis de ce monde dans lequel vous avez grandi ?
Non, c'est des dettes qui ne sont pas solvables, elles sont définitives. Mmh. Elles sont d'autant plus définitives que, or ça vraiment, c'est été dit mille fois avant moi, mais quand on est un transfuge comme ça, on quitte un monde et on atterrit nulle part, parce que pour appartenir à un monde social, il faut y être né. Mmh. Donc on reste dans une espèce d'interland, ce qui est assez inconfortable, mais qui en même temps est un bon poste d'observation pour écrire des bouquins, quoi.
Vous êtes du genre très discipliné quand vous écrivez, pour ne pas dire d'une discipline quasi martiale. Pour écrire ces quelques 420 pages, vous êtes imposé un objectif de 1000 mots par jour.
Ouais.
Est-ce que vous y êtes constamment tenu ? Est-ce que ça signifie que pour vous, sans règle, pas de roman ?
Au départ, moi, je suis une grosse feignasse. C'est-à-dire que j'aime pas écrire et que je préfère glander dehors, boire des coups, regarder des films. Donc à un moment, si je veux donner du sens à ma vie, puis quand même écrire des bouquins, il faut se discipliner. Donc, 1000 mots par jour, on produit du texte, on arrache de la matière au vide. Et à partir de là, il se passe un deuxième truc qui est réécrire. Et là, je peux prendre mon pied, par contre. Et puis, moi, je compare souvent l'écriture, vous savez, quand vous allez à la piscine l'hiver, quoi. Il fait froid, vous n'avez aucune envie d'y aller. Quand vous y êtes, vous vous dégelez, vous avez mal partout. Mais alors, quand vous sortez, ça fait tellement du bien.
Je ne vais pas vous faire parler de votre style, c'est toujours un peu embarrassant, mais enfin, il est fluide, il est lumineux et il est toujours surprenant. C'est quelque chose qui vous vient, non pas facilement, comme vous venez de le dire, mais ce qui vous demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail.
En tout cas, il n'y a pas une phrase de ce livre que je n'ai pas réécrit au moins une fois. Donc, ça fait vraiment partie du truc. Et en soutenant ça, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que comme les films de Ford, ça doit être transparent, on ne doit pas y penser pendant qu'on y est. Et en même temps, ça doit être un style qui n'est pas banal et qui va servir l'histoire et qui doit transmettre les affects dont il est question dans l'histoire.
Ouais.
Donc pour essayer de réussir ce truc-là, ça demande un boulot de cinglé. Ouais.
Bah écoutez, c'est réussi.
Bah merci beaucoup.
Bravo Nicolas Mathieu, ça s'appelle Leurs enfants après eux, c'est édité chez Actes Sud. Merci Nicolas Mathieu. On continue ce pop-up spécial auteur avec Bastien Vivès, juste après un duo entre Joe Strummer et Bob Marley sur ce morceau Redemption Song, à retrouver sur l'indispensable coffret Joe Strummer 001.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had were redemption songs. Redemption songs. Redemption songs. Old pirates, yes they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all
Redemption Songs, c'est à retrouver donc sur l'indispensable toujours coffret Joe Strummer 001. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un invité un poil obsédé, même s'il n'est pas obsédé par les poils, mais qui est-il? Alors, faisons son pop portrait, mais votre portrait, Bastien, c'est un portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Ça y est?
Oui.
Aujourd'hui, nous recevons un jeune artiste déjà passé par plusieurs grandes phases, comme tout artiste digne de ce nom, de son propre aveu. Araignée, dinosaure, tortue ninja, et puis d'un coup, femme à poil. Alors si on applique à son parcours une quelconque théorie de l'évolution, j'avoue, c'est quand même moyen flatteur pour nous les femmes, nous le charme. Enfin, elle le charme, parce que les femmes dessinées par Bastien Vivès, ici présents, sont, comment dire... Majoritairement de type petit séant et gros sein. Moi je dis bonjour les scolioses, mais enfin ce n'est que mon avis, il dessine, il écrit, il n'est pas kiné. Et ce n'est pas la Séverine dont il vient nous parler aujourd'hui qui déroge à la règle. L'ont précédé les filles d'amitié étroite, celles d'une sœur, des melons de la colère évidemment, celles de Lasman aussi. Mais réduire Bastien Vivès, vous le disiez Antoine, à son statut d'homme qui les aimait, les gros seins et les petits culs, serait aussi absurde que de résumer Antoine de Caunes par son statut de springsteenien devant l'éternel. Certes, c'est une grosse partie de ce qui les anime, mais ce n'est pas tout. Enfin, il paraît. Enfin, surtout pour Antoine. Bastien Vivès est un auteur sensible, en témoigne le goût du chlore, Paulina, et même ce chemisier dont nous allons parler, parce qu'une certaine gravité n'exclut pas... Voilà.
Est-ce que vous vous souciez des scolioses que vous pouvez provoquer aux personnages que vous dessinez, Bastien, juste pour répondre à Charline?
Non, mais en fait, c'est... j'ai l'impression, de, juste pour revenir à cette histoire de gros seins, parce que je trouve que ça peut être assez réducteur, comme ça, quand on en parle, mais... Non, mais à chaque fois, c'est toujours... j'ai toujours été fasciné par les filles qui se plaignaient d'avoir des gros seins. Alors qu'en fait, non, oui, dépasser une certaine taille, ça peut avoir certains problèmes et ça peut donner des mal au dos et tout ça. Mais en fait, c'est vraiment à un point, il y a des, comment elle s'appelle, Simona Halep, elle a été championne et elle a fait ses premiers Roland-Garros avec une poitrine énorme et au bout d'un moment, elle s'est fait retirer des seins parce qu'elle voulait vraiment être numéro 1 mondial. Mais avant ça, elle était numéro 40 mondial. Donc je pense que on peut arriver numéro 40 mondial avec une très très grosse poitrine, voilà.
Ben nous voilà fixés. Le point de départ de cette BD, c'est votre épouse, hein, qu'un jour vous avez trouvée absolument ravissante dans un nouveau chemisier. Elle vous a aussi inspiré pour le perso ou Séverine, c'est vous?
Ah non, Séverine, j'ai dû prendre une autre fille que j'ai dû croiser et j'essayais vraiment de me poser la question de trouver un visage qui pourrait être à la fois un peu passe-partout et mais quand on y regarde bien, on y trouve vraiment une grande beauté et je pense que c'est vraiment pour beaucoup de gens, c'est le cas. Enfin, quand j'avais 16 ans, on n'a pas forcément ce genre d'analyse et on a l'impression que soit la nana elle est canon ou soit c'est un boudin et il n'y a pas vraiment d'entre deux. Et Et en fait, quand on y regarde bien et quand on regarde mieux, quand même, quand on regarde un peu les photos de classe, on se rend compte souvent que la nana qui était, ou le mec qui était super beau gosse à l'époque, en fait, quand on y regarde de plus près, c'est un gros laidron, et le laidron qui était à côté de lui, ben, en fait, non, et en fait, il était pas si mal, ouais.
Parmi vos maîtres et inspirations nichons, Bastien Vivès, on peut citer le réalisateur Russ Meyer, à qui on doit des films de sexploitation tels que Faster, Pussycat, Kill Kill, Vixen, Super Vixen, Mega Vixen. Et voici ce qu'il avait à dire sur l'érotisme et la pornographie dans son ultime interview.
Personnellement, je ne suis pas particulièrement branché par la pornographie hardcore, même si j'ai rien contre, c'est juste que ça ne m'excite pas. Vous savez, mon sens de l'humour repose sur l'outrance. Gros nichon et mâchoire carrée, comme on dit. Et plus que tout, je crois que j'ai essayé de faire sourire et pas de montrer le sexe comme s'il s'agissait d'une performance olympique. Globalement, si vous faites du sexe de la manière que j'ai montré dans mes films, vous risquez de finir avec un plâtre. Mais c'est fait exprès. Et je crois que le succès de mes films doit beaucoup à ça.
Et vous, Bastien Vivès, vous dessinez des scènes de sexe pour raconter quoi ? Produire quel effet ?
Ben en fait, c'est très compliqué, parce que moi, je m'y suis mis vraiment très tard dans la bande dessinée à dessiner des scènes de sexe, alors que j'ai passé toute mon adolescence à ne faire que ça, parce qu'il fallait que je comprenne vraiment le rapport que j'avais avec mes personnages, avec mon personnage quand je fais passer une scène de sexe. C'est une parenthèse dans une bande dessinée au niveau du rythme, au niveau de tout ça, et c'est très important. Ce qui est assez drôle en plus, c'est que le sexe a toujours été en bande dessinée, je trouve, d'une certaine manière assez racoleur dans le franco-belge, il faut pas se le cacher, et même que ce soit dans le manga ou dans le comics, on vendait des albums que sur cette fameuse planche 38 où il y a la nana qui prend une douche, voilà, et tous les albums se vendaient là-dessus. Et là, pour le coup, d'essayer de trouver des sexes qui soient vraiment des scènes de sexe qui soient vraiment utiles à la narration, ça a été ça a pas été une mince affaire. Et je pense aujourd'hui que j'arrive à allier des scènes où le dessin peut vraiment beaucoup plus s'exprimer, quoi. Ouais.
Vous dessinez remarquablement bien les femmes. On a l'impression même que vous avez une approche de la psyché féminine. Non mais c'est tout à fait.
Ah oui, alors que je pense que je suis le mec qui capte le moins bien les meufs. Mon rapport avec les nanas, ça a toujours été, en gros, on passe de très bons moments, et puis tout d'un coup, elles se mettent à pleurer. Et je saurais jamais vraiment pourquoi, quoi. Et ça a toujours été à peu près ça. Et vraiment, le nombre de fois où je suis là en train de, et puis je me rends compte, oh, merde, elle est en train de pleurer, et donc. J'essaie de la réconforter et puis voilà.
Peut-être un mot déplacé, Bastien. Enfin,
je sais pas, ou peut-être que j'ai dû faire quelque chose et on
ne
saura jamais.
C'est pas tant ce que vous dites, c'est plus le ton sur lequel
ouais,
vous
voilà,
dites en
je
fait.
Je crois que ça fait des choses comme ça.
Vous y mettre aussi, Charline.
Pardon. Elle rit, mais je sais même pas si ça a un vrai intérêt de... Enfin, il faut essayer de comprendre et tout ça dans un couple, mais je pense que ça c'est encore autre chose, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous attire chez ces êtres étranges que l'on appelle les femmes ?
Les femmes, parce qu'elles ont quelque chose que on n'aura jamais. Nous, d'une part, et c'est pour ça que ça m'attire d'autant plus que je dessine, c'est que la plupart des femmes, il y en a quelques-unes qui l'ont, mais l'élégance, voilà, c'est vraiment le seul truc. Alors que dans le monde animal, tous les animaux, tous les gens l'ont, enfin voilà, bref, les femmes, elles sont élégantes, les hommes, non, voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, et ça me rendra toujours, je serai toujours émerveillé devant une femme élégante. Voilà. Mmh.
Je ne pensais pas que l'homme est une femme comme les autres.
C'est un très, très bon. Mais non, je pense pas.
On croise plus de filles nues que d'hommes nus dans vos livres. Ils vous donnent plus de fils à retordre pour le dessin.
Pour le dessin, ça c'est sûr. Ils me donnent un petit peu plus de fils à retordre. En plus, ce qui est difficile, c'est que difficile de rendre un homme nu sexy ou même s'il est difficile même de rendre un personnage nu sexy. C'est toujours compliqué. Vous foutez une nana à poil, c'est pas sexy. Il faut arriver à soit avec un vêtement, une pose, n'importe quoi, un contexte, c'est là où on crée vraiment chose, mais juste une nana toute nue ou quelqu'un de nu, non, ça me fait pas penser à quelque chose de sexy, je vois plus même un côté je sais pas, pas de concentration ou n'importe quoi, mais quelque chose de plus dur, de plus médical, voilà.
Comment jugez-vous que le dessin que vous faites est sexy?
C'est pas une mince affaire. Moi, quand j'étais petit, c'était facile, c'était parce que ça me faisait bander. Aujourd'hui, moins. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, les gens ont tellement des sexualités personnelles ou ont tellement des fantasmes personnels que parfois il vaut mieux être honnête avec soi-même et faire un dessin qu'on va juger entre guillemets un peu je sais pas comment dire qui nous plaise. Et les gens trouveront toujours à manger là-dedans, quoi. Si le dessin est assez généreux, les gens arriveront toujours à manger là-dedans. Parfois, les gens, ils tripent sur les, je sais pas, les pulls, les coupes de cheveux, les lunettes, les pieds. Enfin, ouais. Voilà.
On va en reparler tout à l'heure de la sexualité de nos contemporains, enfin, ouais, en tout cas, voilà. Nos compatriotes.
Vous dites le désir passe par le regard. Or, dans Le Chemisier, en dehors des yeux de l'héroïne, Séverine, et parfois de Ali, le flic qu'elle rencontre, on voit assez peu les globes de ceux qui les entourent. Comment ça se fait?
Par exemple, pour son petit copain, c'était une réelle volonté parce qu'il avait des lunettes.
Des lunettes,
et
on
lui,
voit
de toute façon,
ses
c'est le personnage qui va rester aveugle pendant tout le long de l'histoire. Pour les autres, tout dépend parce que j'aime bien le fait que, par exemple, même le prof, au début, on voit pas ses yeux et tout d'un coup, elle met un chemisier en cours et ça y est, en fait, il se dit ah mais comment vous appelez, qui vous êtes, alors qu'il l'avait même pas calculé pendant toute l'année. Et en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment là-dedans au niveau des regards, d'une certaine manière, il faut impressionner les gens, il faut laisser une trace, il faut. On peut pas juste se contenter d'essayer de raser les murs et de passer le plus inaperçu possible. D'une certaine manière, j'essaie de le faire à travers les bandes dessinées et autre chose. Et je pense que tout le monde doit essayer d'une certaine manière de se rendre intéressant, quoi.
C'était déjà le cas avec une sœur, et sans spoiler Le Chemisier, le sexe et la mort cohabitent volontiers dans vos bandes dessinées, Eros et Thanatos. Vous êtes freudien, Mastiffes?
Aucune idée, il faudrait que je me mette à lire Freud. Déjà avec Houellebecq, j'ai déjà pas mal de boulot. Mais non, pour le coup, oui, évidemment, le rapport des deux, ça se fait assez facilement, mais je pense même que par rapport aux sentiments amoureux, même si dans Le Chemisier, on l'esquisse légèrement, mais on n'en parle presque pas, mais je pense que l'idée de mort, tout d'un coup, prend une autre saveur que juste simplement une expérience, je sais pas, une espèce de délire physique, quoi. Mm-hmm. Tout d'un coup, quand on devient amoureux, on a l'impression que on s'imagine des scénarios un peu morbides tout le temps, je trouve.
Mais l'album Le Chemisier est parfois mélancolique. Hein. On sent la période de l'après-attentat, la libération de la parole des femmes. Le chemisier, c'est aussi un moyen d'exorciser.
Oui, complètement. En fait, d'habitude, je me laisse pas trop bouffer par l'actualité. J'avais toujours un peu. C'est l'avantage d'avoir été un peu geek, de jouer aux jeux vidéo, tout le bordel. C'est que parfois, on est un peu dans une espèce de tunnel. Là, pour le coup, ouais, cette année-là était vraiment très poussée. Je me suis pas rendu compte à quel point, en fait, je sais que Charlie Hebdo, ça m'avait marqué sur le moment, mais à quel point ça m'avait vraiment profondément marqué. Pour cette histoire de liberté d'expression, même si je vais pas forcément moi me battre là-dessus, c'est pas pour ça, mais que des gens se soient fait buter pour des dessins qu'ils ont faits, il y a quelque chose qui m'a fait ça laisse à réfléchir, et ça a mis surtout dans la tête des gens qu'il y a des choses qu'on a le droit de dessiner ou pas. Et le chemisier, pour moi, il y avait un exemple, c'est pas du tout une BD porno ni rien. On va parler aussi de sujets parfois très sérieux, alors que c'est entre guillemets, c'est de la BD. J'avais besoin de pouvoir librement emmener le lecteur et lui parler de tous les sujets qui me paraissaient importants. Et oui, évidemment, il fallait que je recrache un petit peu toutes ces années, cette année 2017-2018.
Et une liberté qui fait que vous êtes aussi pointé du doigt par des ligues.
Oui,
vertu,
un petit peu, oui, bien sûr. Mais c'est fou, hein, c'est fou de constater ça, de constater que sans faire de gros amalgames, machin, mais la plupart des gens qui me sont tombés un peu dessus en disant que mes albums étaient choquants et compagnie, c'est ceux qui défilaient Je suis Charlie il y a 3 ans. Les mentalités, j'ai l'impression que les gens, ne se sont pas trop repenchés là-dessus, ont pas trop réfléchi à vraiment le poids que c'était de voir des mecs débarquer avec une Kalachnikov et de buter des gens buter des dessinateurs, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et je trouve ça assez flippant, ce qui fait que ça a posé plein de problèmes sur la représentation. Et là, il y a une espèce d'amalgame où on va récupérer un peu tous les textes de loi qui parlent de représentation et vouloir s'en servir comme censure. Ce qui était à la base le contraire, c'était pour essayer de protéger un petit peu l'image, quoi. Ouais.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Vous le savez, nous sommes vendredi, et vendredi n'est pas que le nom du compagnon de Robinson Crusoe. Non, c'est aussi le jour de la livraison du magnéto du grand n'importe quoi d'Alexandre Verret. D'ailleurs, je vais aller voir à la cave si on me l'a livré. Allez, j'y vais.
N'importe quoi. Bon, alors les enfants, un quotient est nul si et seulement si son numérateur est... Ah non, c'est pas ça. Kevin? Oh, c'est pas ça non plus. Tini? Ok, je vois, personne n'a révisé, hein. Eh ben, contrôle surprise.
N'importe quoi.
Tu es tellement belle. Tu me rends fou. Pour toi, je serais prêt à me peindre en jaune. En jaune, oui. En jaune.
Ping-pong, circulate.
N'importe quoi.
Miroir, dis-moi qui est la plus belle.
C'est sûr, ce n'est pas toi. T'es moche.
Comment oses-tu? Tiens. Voilà ce que tu méritais.
Même pas mal. Même pas mal, même pas mal. T'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche. T'es moche, t'es moche. T'es moche.
Over. Ouais, merci Alexandre Verret, le shoot hebdomadaire de n'importe quoi, c'est chaque vendredi dans Pop Pop Pop. Et comme je suis ici, bah, tout seul, un peu comme un gland là dans ma cave humide, je vais quand même jouer un vinyle et vous faire plaisir, mon cher Bastien Vivès, et je vais vous jouer du Colette Renard.
Qu'il est bon d'être demoiselle. Vénus étincelle, quand sur Paris tombe la nuit, je me fais doucement compter fleurettes, je me fais murmurer des mots doux, je m'amuse à jouer les coquettes, je m'amuse à rendre jaloux, je me fais dire que l'on m'aime, je me fais jurer amour toujours, je me fais lire des poèmes. Fais baisser l'abat-jour, je me fais faire dans l'oreille des zigou-zigou merveilleux, et ces caresses sans pareil ont des prolongements délicieux. Je me fais retirer ma gourmette, je me fais baiser dans le cou, je me fais friper la collarette, je me fais caresser les genoux. Je me fais chiffonner le corsage, ils en perdent un peu la raison. Je me laisse faire des tatouages, je me fais feuilleter les jupons. Je me fais faire du bouche à bouche, à en perdre la respiration. Et lorsque nos lèvres se touchent, j'en vois 36 constellations. Je me fais retrousser mes dentelles, je me fais embrasser partout, mais j'interdis la bagatelle. Je me fais faire tout, sauf tout. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je flirte, tout simplement.
Les nuits d'une demoiselle dans Pop 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 sur France Inter, c'était Colette Renard. Merci Bastien Vivès, le chemisier est toujours disponible chez Casterman, et merci Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux, et lui dans 2-3 librairies de France, là, avec un énorme bandeau, prix Goncourt 2018, et il est justifié ce prix. Lundi, on ne se retrouve pas pour un nouveau numéro de Pop Pop Pop, mais à la place, on vous propose la rediffusion de la spéciale Pierre Desproges que nous avions concoctée en avril dernier. Et on se retrouve bien évidemment mardi avec une légende de la pop culture, Patti Smith.